Aujourd'hui, une émission spéciale d'Histoire d'un jour. Nous allons passer une heure en compagnie de Michel Sardou, qui est, vous le savez, l'invité d'Europe 1 tout au long de cette journée. Bonjour Michel.
Bonjour.
Vous savez peut-être que nous avons l'habitude, tous les jours, de 14 à 15 heures, de faire revivre un événement de ces 50 dernières années grâce à des documents sonores, à des interviews et à des disques. Alors pour vous, aujourd'hui, j'ai choisi le 29 juin 1947. Vous aviez tout juste 5 mois, je crois. Mm-hmm. Mais ce n'est pas pour célébrer l'année de votre naissance que j'ai choisi cette date. C'est tout simplement parce que cette année-là, un événement tout à fait étonnant et même cocasse s'est produit dans la vie de votre père, Fernand Sardou. Mmh. Mais avant de vous raconter cette histoire, que vous ne connaissez peut-être pas d'ailleurs,
c'est possible.
Je voudrais camper, si vous le voulez bien, cette année 47 avec quelques documents. Par exemple, 24 jours avant votre venue au monde, les prix ont subi une hausse générale de 5%.
Aïe.
Vous me direz que c'est une chose à laquelle nous sommes assez habitués depuis, mais vous avouerez que 5% d'un seul coup, c'est tout de même assez inquiétant. C'est en tout cas le signe d'une situation économique désastreuse, car en cette immédiate après-guerre, les salaires étaient très bas, le chômage était partout et la production était insuffisante. Quant au ravitaillement, il était tout aussi pauvre, tout aussi mauvais qu'aux années les plus noires de la guerre. Par exemple, on avait seulement droit à 200 grammes de pain chaque jour. C'est pas beaucoup. Bref, c'est ce que quelqu'un a appelé un jour les lendemains qui déchantent. C'était aussi l'époque où on essayait de rebâtir la République. Il fallait élire de nouveaux députés, de nouveaux sénateurs, de nouveaux maires et aussi un nouveau président de la République. Le 16 janvier, 10 jours avant votre naissance, Vincent Auriol était élu sans grande difficulté. Et c'est Jacques Duclos, oui, Jacques Duclos, le doyen d'âge de l'Assemblée nationale, qui à la radio allait annoncer la nouvelle aux Français.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin pour la nomination du président de la République. Nombre de votants, 883. Bulletin blanc ou nul, 0. Suffrages exprimés, 883. Majorité absolue, 442. Ont obtenu. Messieurs, Vincent Auriol, 452 suffrages. Son petit de rire. Petit de Ribes, 242. Gasser. Gasser. Gasser, 122. Michel Clémenceau, 60. Divers, 7. Monsieur Vincent Auriol. Ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je le proclame président de la République française pour cette année à dater de ce jour.
Sardou, aujourd'hui, cela peut surprendre qu'un député communiste annonce officiellement les résultats d'une élection présidentielle. Mais à l'époque, cela ne surprenait pas grand monde, puisque ces mêmes communistes étaient au gouvernement. C'est le général de Gaulle, vous vous rappelez sans doute qu'il les y avait installés. Et après la libération, De Gaulle était parti, mais eux étaient restés, pas pour très longtemps. En effet, l'agitation dans les pays coloniaux commençait, troubles à Madagascar, début de la guerre d'Indochine, les communistes ne se sentaient pas très à l'aise dans ce gouvernement ramadier, et c'est à cause d'une grève chez Renault que le président du conseil allait les mettre à la porte. Ces ministres communistes avaient en effet critiqué la politique sociale du gouvernement, tandis que les députés de leur groupe votaient la défiance à ce même gouvernement, mettant Ramadier en difficulté devant la Chambre. Enfin, pour mettre une dernière touche à ce tableau très succinct de l'année 47, il faut aller vite, il faut que je vous signale également que c'est au mois de juin que les Américains ont lancé leur fameux plan Marshall d'aide à l'Europe qui était précisément destiné à barrer la route au communisme en donnant un coup de fouet à l'économie et en essayant d'atténuer les inégalités sociales qui étaient à l'époque importantes. Sachez également que cette année-là, les grands succès de la chanson étaient 12 France et Clopin Clopin, qui étaient des succès de la guerre.
Une Cocatrice et Charles Trenet.
Des succès de la guerre, mais qui duraient encore longtemps après. Cette année-là, également, Michel Sardou fut également une année assez riche dans le domaine des arts et de la littérature, puisqu'on pouvait trouver en librairie Les raisins de la colère de Steinbeck, qui avait été écrit en 39, l'année de ma naissance à moi, mais qui est paru en 47, et puis La peste de Camus également. On trouvait également, j'ai fait une petite recherche juste avant l'émission, On trouvait également Exercice de style de Raymond Queneau, qui est une petite merveille. Et c'était également l'année où commençaient les livres de poche. On trouvait les premiers livres de poche sous la forme d'un livre plastifié en format de poche. Les premiers numéros sont La joie de Georges Bernanos et La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Au théâtre, on joue le Malcourt de Liberty, qui révélait Suzanne Flon, Les Bonnes, mises en scène par Jouvet, et qui confirmait Jean Genet, et puis La petite hutte, qui retrouverait à son auteur André Roussin, Les portes de l'Académie. Quant au cinéma, il offrait des affiches comme Le Diable au corps d'Autant Lara, avec Gérard Philippe, ça vous devez connaître.
Oui, je connais.
Et aimé sans doute. Non ?
Oui, beaucoup.
Le silence est d'or de René Clair, Monsieur Verdoux de Chaplin, Chaplin qui commençait à avoir quelques ennuis aux États-Unis, il allait bientôt partir, c'était le moment de la chasse aux sorcières. Et puis, Quai des Orfèvres de Clouzot, un film dans lequel Suzy Delair chantait un autre grand succès de l'époque avec son tralala. Michel Sardou, alors cette chanson, enfin du moins ces chansons de l'année de votre naissance, ça vous est très étranger, très lointain?
Oh non, pas du tout, le tralala je le connaissais, clopin aussi, parce que j'ai passé des soirées avec Bruno qui la rejoue systématiquement après chaque repas, très gentiment. Il en est fier, il a raison, c'était une très bonne chanson. Il y a Fifi aussi, je vois, qui était créée au Bouffe Parisien en 47, et il y a C'est une gamine charmante, chantée par Chevalier, qui était aussi, qui est devenu un classique de... C'était une bonne année.
C'est une bonne année, hein.
Une bonne année en chanson. Ouais. C'est un bon millésime en chanson.
C'est un bon millésime en cinéma aussi. Oui, parce que alors là, disons, là, il y a des titres formidables, Citizen Kane, Casablanca,
Elsa Popine,
oui, tiens, Elsa Popine, oui, c'est déjà...
47, c'est fou, hein.
Ouais.
Je pensais pas, moi.
Une année froide aussi, hein.
C'est ce qu'on m'a dit, on m'a dit que c'est l'hiver, parce que m'a dit ma mère, c'est l'hiver le plus froid qu'elle ait connu.
Ouais, un des hivers les plus froids.
Un grand courant d'air.
Et qui ça s'est pas arrangé parce qu'à la suite il y a eu des grèves, des grandes grèves de 47, il n'y avait plus de charbon.
C'était une année très dure.
Mais politiquement, vous saviez tout ça sur votre année de naissance?
Oui, non, très honnêtement, vaguement.
Non, vaguement. C'était l'année du départ des communistes du gouvernement, la dernière fois qu'ils ont été, et c'était l'année des grandes grèves. Donc voilà, si on veut résumer très rapidement.
Je suis arrivé en plein merdier.
Bon, on se retrouve dans quelques instants après une page de publicité. Bon, continuons en compagnie de Michel Sardou, ça commence bien, à explorer l'année 1947, plus exactement le 29 juin 1947. Ce jour-là, Michel, votre père, Fernand Sardou, se présentait à la grille du palais. Quel palais? Eh bien, je vous demande encore quelques minutes de patience, car avant de raconter l'histoire qui lui est arrivée ce jour-là, je voudrais d'abord présenter Fernand Sardou. Tout le monde sait qu'il fut un artiste de music hall et du cinéma, mais ce que l'on a peut-être oublié, c'est que votre grand-père, et même votre arrière-grand-père, était également du métier. Car chez les Sardou, c'est une manie de devenir célèbre. Ce qui n'est d'ailleurs pas commode, je suppose, car tout le monde sait qu'il est plus facile de se faire un nom qu'un prénom.
Dans les deux sens, d'ailleurs, les femmes aussi.
Oui.
Du côté de ma mère, c'était des danseuses de mère en fille.
On va en parler. J'ai retrouvé dans les documents radiophoniques d'Histoire d'un jour, une interview de votre père, où il parle précisément de la lignée.
Mon père était une vedette, parce que chez nous ça dure longtemps, vous savez, dans la famille. Il y a deux temps qu'on fait un peu la muse des gens. Il y a eu mon grand-père qui était mime. Il ne parlait pas, lui, il faisait comme Marceau. Il était menuisier la semaine, le samedi dimanche, il allait jouer la pantomime à Toulon. Un quartier célèbre, le quartier du cul de bœuf. Un quartier résidentiel.
Comme son nom l'indique.
Après, il y a eu mon père. Un comique excentrique, Nouvelle-Orléans. C'est tantan, 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 tantan. C'est tout très, très en l'air, très sautillant. Comique excentrique, du reste, c'est le créateur du genre. Puis alors, il y a eu moi. Oh là là, moi, j'ai tellement mis de l'argent de côté, j'ai plus rien devant moi, mais ça a été. Et maintenant, Michel. Mais vous savez, les Sardous, c'est un peu comme Napoléon.
Il y a le chien aussi qui est un Sardou.
Il y a Ringo, oui. Eh oui, comme Napoléon, lui, il a mal fini, et nous, on n'en finit plus, oui.
Je suppose que votre père, vous avez déjà raconté tout ça, vous connaissez tout ça par cœur.
Oh, je connais, à la fois je connais pas bien, parce que j'adore mon père, et c'est grâce à lui, si effectivement c'est vrai que chez nous c'est de père en fils, on se passe ça un petit peu comme on est boulanger de père en fils ou d'autres maisons, enfin c'est ce que disait Jacques Martin ce matin, c'est très artisanal chez nous, donc on nous transmet, ça c'est un petit peu une obligation. Mais d'un autre côté, on se confiait pas beaucoup de choses. On gardait chacun son métier. On était quand même toujours concurrents. Avec beaucoup de sympathie et beaucoup d'amour. Mais si vous voulez, on se donnait pas nos trucs. Chacun chez nous gardait ses...
Il vous a pas donné de trucs comme ça?
Non, il m'a fait une chose qui est capitale. C'est-à-dire qu'il m'a pas barré la route. Il y a beaucoup de pères artistes, si vous voulez, qui disent à leur fils, qui conseillent à leur fils de faire un autre métier que celui-là parce que c'est un métier aléatoire, dangereux, etc. Alors le mien, au contraire, m'a accueilli à bras ouverts en me disant, bien sûr, débute. Il m'a fait débuter, d'ailleurs, lui. Il ne m'a pas donné de conseils, mais il m'a mis en place. Après, il m'a laissé faire tout seul. Bien sûr qu'il surveillait ça d'un œil, de son œil, mais il n'est pas s'en mêler. Il aimait ou il n'aimait pas, il ne me donnait pas de conseils, il ne me dirigeait pas.
Il était très fier de vous, je crois, quand même. Hein?
Ben, j'étais très fier de lui, surtout.
J'ai une petite anecdote alors personnelle. Là. Il y a quelques années, à la télévision, je l'ai rencontré au cours d'un reportage. Et au lieu de se présenter comme Fernand Sardou, il a dit, vous savez, je suis le père de Michel, le jeune qui monte. J'ai trouvé ça formidable. Savez-vous également que votre grand-mère, qui paraît-il fut une ravissante personne, fut célèbre sous le nom de Rosalie Plantin.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle faisait, alors?
Je crois qu'elle était, je ne sais plus comment, guiseuse, je crois, ou danseuse.
Guiseuse chanteuse, oui.
Et je crois qu'elle se déshabillait un petit peu.
Ah bon?
Oui, enfin, comme on se déshabillait à l'époque, c'est-à-dire que c'était pas comme maintenant, je veux dire, le nu intégral. On avait 14 froufrous, 35 choses. Et je crois qu'elle a eu une époque célèbre dans une huître, je crois. Elle a eu un moment célèbre, elle était dans une opérette, je crois, où il y avait Rému. Elle était enceinte de mon père, et Rému disait toujours à mon grand-père, mais ne nous emmerde pas avec ta femme, elle n'est pas enceinte, c'est nerveux, elle n'accouchera pas, etc. Et finalement, un soir, elle devait sortir de l'huître, faire une apparition. Elle était très belle, c'est une grande femme, très belle femme. Et elle ne s'est pas levée de l'huître, elle était en train de, de faire le petit... Enfin, mon père.
Une anecdote à propos de la naissance de votre père, vous la connaissez, non? L'anecdote avec Rému.
Je ne sais pas.
Je vous la raconte.
Racontez-la moi.
Justement, elle attendait un enfant, et quand elle était, je crois, au concert Mayol. On m'a dit que elle était
au concert Mayol.
Et il est probable que votre père, Fernand Sardou, ce pur méridional, serait né comme vous à Paris, si, sans l'obstination de Rému, qui ne cessait de répéter en bougonnant, mais alors ce petit, il va naître à Paris, quelle catastrophe, vous la connaissez. Je peux la raconter quand même pour les auditeurs. Et il paraît qu'il demandait souvent à votre grand-père « Comment va le futur petit Parisien ?» À la longue excédée, votre grand-père prit une grande décision. Son fils naîtrait à Marseille. Alors Madame Sardou prit le train, mais elle dut descendre précipitamment à Avignon pour mettre au monde donc un superbe bébé nommé Fernand Sardou.
Dans la salle n'est pas perdue.
Dans la salle n'est pas perdue, ça fait
assez. Ils n'ont pas eu le temps d'aller jusqu'au bout.
Bon, et puis les années ont passé... Et votre père a fait comme votre grand-père et votre arrière-grand-père, il est monté sur les planches. J'ai retrouvé une autre interview de lui, où il raconte comment, en cette année 1947, qui nous occupe aujourd'hui, il a été engagé à l'Alhambra grâce à Édith Piaf.
Nous étions très amis, j'avais travaillé avec elle à l'époque héroïque, où on gagnait 17 francs chacun dans un petit cabaret de la rue Pigalle. Et j'avais dit à cette gosse, tu sais, si tu te soignes bien, tu deviendras une des plus grandes vedettes du monde. Alors, elle a réussi à devenir grande. Et quand en revenant d'Amérique, elle m'a engagé dans un cabaret parisien, au Libertis, et elle m'a engagé pour être vedette américaine dans son programme dans l'Alhambra. Et c'est là que j'ai lancé cette fameuse chanson de Marcel Sicard, aujourd'hui peut-être ou le lendemain. Tout le monde m'a dit, et je l'ai lancée, elle avait été déjà créée par un gars dans une revue qui s'appelait Gaston Ré. Et puis, on me fait voir des chansons, Paul Durand. Puis, elle m'en fait voir une, mais je dis, tu sais, elle est pas mal, ma fin.
Elle n'est pas terrible.
Tu me dis, il y en a une là qui a déjà chanté Gaston Ré, si tu l'as. C'est pas grand chose, mais et il m'a joué ça. J'ai dit, tu appelles ça pas grand chose, ça? Moi, je dis, je crois que c'est une grande chanson du midi. Et je l'ai chantée au cabaret le soir même. Le patron fait beau, ma femme, toujours beau, tu sais. Et le soir, j'ai dit, tu vas voir le beau. Et en effet, je l'ai chanté deux fois en suivant. Je crois que c'est ça que tu allais dire, hein?
Exactement.
Je l'ai chanté deux fois. C'est la seule chanson de ma vie que j'ai chanté deux fois dans la même soirée. C'est-à-dire, on m'a crié bis, mais on m'a pas dit bis une autre, on m'a dit la même.
Et ce soir-là, ça a donc été, pour Paris, les débuts.
Mais il devait 1100 francs.
Oui, 1100 francs.
Elle m'a donné 1100 francs parce qu'elle était large des épaules. Elle m'a dit à l'entrée que je m'occupais de toi. Et en effet, les impresarios sont venus. Et à partir de ce moment-là, j'ai gagné de 1100. Elle m'a fait passer 11 000 francs. Ah. Ce qui était, à ce moment-là, une fortune.